Parcours et demande d'asile, le téléphone en migration.
Je n'ai jamais nagé dans plage. C'était mon première fois que j'ai nagé, c'était 2014 en Turquie. Et pourquoi je présente ces photos? Parce que j'ai fait une signée, ça me rappelle de Istanbul, comme j'ai nagé une fois dans toute ma vie. J'ai 25 ans. Et la deuxième fois que j'ai allé à la plage avec un ami, et j'ai fait juste les photos.
Donc, depuis que tu as quitté en Afghanistan et jusqu'en France, tu n'as pas passé dans la mer, vers la mer?
Non. Il y a des gens qui passent la mer. Ça passe trop vite. Et moi, j'avais peur de la mer. Et j'ai passé 43 jours à pied, un peu voiture, les voitures de chaque pays. Comme j'ai passé pas la mer, mais j'ai passé tous les pays, presque 10 pays que j'ai passé. Mais je ne voulais pas venir directement sur la mer. Je vois, il y a beaucoup de gens qui vont dans la mer et passent les bateaux en Turquie directement en Italie. C'est difficile. Même j'avais peur, et ma mère aussi ne voulait pas que tu pars dans le bateau. Et c'est très compliqué. Le premier pays, c'est Iran, après Turquie, Bulgarie, et Serbie, Hongrie, Autriche, Allemagne et France.
Lorsque l'on migre, les temporalités s'entrechoquent. Le rapport au temps est marqué par des mises à l'arrêt, des blocages, des allers-retours, d'autant plus face à un système migratoire européen et français, restrictif et coercitif. Dans ce film audio, vous allez entendre des témoignages de jeunes en demande d'asile, relatant une partie de leur parcours, leur expérience d'exil et d'insertion en France. Ils nous ont détaillé certaines de leurs aventures, expliqué leur usage du téléphone portable et nous ont livré des souvenirs, des espoirs et des incertitudes. À partir de leur récit, ce film audio traite du lien social maintenu en migration grâce au téléphone, de son importance pour les personnes migrantes, au regard des difficultés auxquelles elles sont confrontées, et des prises de risques encourues dans leur parcours d'exil.
Quand je suis arrivé en France, j'ai passé 3 mois à Paris. Après, j'ai été transféré pour la sécurité sociale de demande d'asile en Bretagne, à Brest. J'avais même pas un mois qui était en Brest. Et en fait, j'ai été dans la rue, il y avait minuit. Il y a 2 jeunes hommes qui sont venus face à moi et m'a parlé. Il y a qui commençait de jouer avec moi, on fait le boxe. J'ai dit non, je suis pas pour le boxe, je vous connais pas, et j'ai même pas savé le français, mais ils ont compris que je suis pas français. Et le deuxième, il a joué avec ma poche, il y avait même pas 30 secondes, ils sont partis. J'ai dit sympa. C'était peut-être rigolo. Et 2 minutes après, je vois ma poche, pas de téléphone, il n'y a personne. Et j'ai compris, ils ont volé mon téléphone. Et le téléphone, il y avait beaucoup de choses, ma familiale et mes photos de plus de 2011. Et ça m'a trop manqué, les photos. Ouais.
Istanbul, Brest, 2011-2014. Des lieux, des dates qui jalonne une trajectoire migratoire complexe, dont Fazel nous a relaté certains moments, les difficultés et les obstacles, mais aussi les souvenirs heureux. Grâce à son téléphone portable, certains bons souvenirs ont été photographiés. Outils de connexion, d'accès à l'information, moyen de s'adapter et de s'insérer dans un nouveau pays. Le téléphone est également un outil qui permet de se souvenir, de tisser un lien entre les personnes et les espaces, des lieux parfois lointains et des périodes de vie.
Je m'appelle Mouktar Ba, je suis né en Guinée. 15 décembre, j'ai quitté en Guinée, je suis venu au Mali. Après Mali, je suis venu à Timiaoui, Algérie. Et Algérie, j'ai quitté Algérie, je suis parti en Tunisie. Sfax, ça c'est la deuxième ville de Tunisie. Et ensuite, Tunisie, j'ai quitté Sfax le 6, c'était moi. Je suis arrivé à Lampedusa le 7, c'était moi. Et j'ai quitté là-bas, j'ai fait la quarantaine à Sicilia. Sicilia, Ancona, Ancona, Torino, Torino, Briançon, Briançon, Villa, comment on appelle ça? Il y a une ville qui est aux montagnes là, entre
Grenoble.
Grenoble, exact. Grenoble. Grenoble et Nîmes ici. Pour traverser, mm-hmm. j'ai tenté trois fois. Première fois, c'était avril. Il nous a mis dans un bateau pourri. Donc, il y a eu une naufrage. Mais heureusement, les gardes-côtes n'étaient pas loin.
Et tout ça, c'était, comment on dit, en Tunisie hein,
oui, c'était en Tunisie. Non, moi, j'ai pas parti de Libye ou Maroc, non. Moi, je suis venu Tunisie. C'est là-bas que j'ai tenté. Je ne connais pas Maroc, je ne connais pas Libye. Donc, je n'ai jamais été là-bas. C'est en Tunisie. Les trois fois, c'est en Tunisie.
Et la première fois, ça s'est passé comment? Parce que là, ça peut, tu n'as pas réussi à traverser, non?
Bon, quand il nous a fait retourner, j'avais l'argent en Guinée. J'appelais mon ami encore, il m'a transféré l'argent. Mois de mai, j'ai tenté encore. On était presque rentré parce qu'on était arrivé l'eau bleue. Donc, on voit les gardes-côtes qui viennent parce qu'ils sont rapides. Leur bateau, ça file dans l'eau. Mm. Parce que nous, ils nous mettent dans les bateaux pourris avec un moteur fatigué. Mm. C'est quand on est arrivé à 5 km, les gardes-côtes, ils ont venu d'abord par hélico. Ils ont filmé et ensuite, on voit les bateaux. Donc, heureusement, troisième fois, on a tenté. Par la grâce de Dieu, nous sommes venus jusqu'à Lampedusa.
Je suis Camara Mohamed Kafis. Je suis d'origine guinéenne, voilà. Et je viens de la Guinée-Conakry. Moi, je suis un guide. C'est ça, j'ai contourné, mais je vais te dire clairement. Je suis un guide. Mm-hmm. Voilà.
Donc, tu faisais traverser les Andes.
Entre Magania et jusqu'à
Maroc.
Voilà.
Ok, donc vous êtes traversé dans les montagnes.
Ben ça, il te faut. Il y a...
Bah oui.
C'est ça, oui.
Mm-hmm.
Et quand tu es arrivé au Maroc là-bas, tu n'as pas eu de difficultés pour financer?
Bien sûr, parce que c'est là-bas d'abord que j'ai dû commencer pour avoir des moyens comment rentrer ici. C'est un travail qui est très très difficile et très risquant aussi. Avant de prendre cette photo, j'ai été agressé. Parce que pourquoi? J'ai été agressé en quittant vers, comment on dit, la supermarché. Aller faire des assas, les crousses comme ça. Donc, moi, j'ai dû tarder, prendre un peu du temps avant de me retourner, avant d'aller faire les assas. Et vers 18h, 19h, comme ça, moi, je suis à mon retour. Et j'ai été agressé à la route, voilà, par des bandits, je ne sais pas, donc voilà. J'ai perdu mon téléphone, ça fait presque... Je fais un mois comme ça, parce que je fais tout ce temps sans me mettre en ligne et je n'ai pas de téléphone. La nouvelle que j'ai apprise, c'était... Il concernait, comment on dit, à mon décès, que voilà, j'étais décédé. La famille, ils étaient tellement inquiets pour moi. Et lorsque ma mère aussi, elle a appris que je n'étais plus dans ce monde, il était choqué. Voilà. Et le jour de la fin du mois, le jour où j'ai accepté un téléphone, je me suis connecté. C'était la première photo que j'ai prise. Et je lui fais montrer sur le Facebook, soi-disant que je suis toujours en vie et que tout va bien. Voilà. Donc, c'est la dernière photo que j'ai prise. Pour soulager ma mère, pour lui montrer que voilà, tout va bien et que son fils, il est en merveille. Voilà.
Tu démarres quand tu veux, et puis... Tac, moi ça enregistre.
Téléphone, c'est la vie, c'est comme la santé. Tout le monde a besoin. Par exemple, moi, j'ai amélioré la langue française grâce à mon téléphone. J'ai une application. Je pratique un peu. Et ensuite, je mets quelques familles qui sont en Guinée. Pas famille proche, mais je mets quelques familles. Parce que moi, j'ai perdu mon père très tôt, et ma mère en 2016. Donc, je n'ai pas de frère. Donc, mais j'ai des amis, j'ai des cousins en Guinée. Donc, j'ai discuté avec eux tous les jours. C'est grâce au téléphone. Donc, si mon téléphone, même si je n'ai pas Internet, c'est comme si je vis dans une prison parce que je suis une personne isolée qui n'a pas de travail. Donc, le matin, je me lève, je prends mon téléphone. Donc, à cause de mon téléphone, ça me permet de respirer tranquillement. Et quand, voilà, parce que rester comme ça sans faire, sans rien faire, c'est pas facile. C'est un peu compliqué.
Peut-être tu peux mettre en son, ça va coller là. Tu vois, comme ça on n'arrête pas son écriture.
Je m'appelle Traoré Abou. Je suis guinéen, Guinée-Conakry. J'ai quitté en Guinée pour venir jusqu'à Maroc. Après, j'ai quitté là-bas pour rentrer en Espagne. On est rentré en France, la première ville, Bayonne. On a fait presque 3 jours au Croix-Rouge, là-bas. On a quitté là-bas jusqu'à Montpellier. J'ai fait évaluation là-bas et j'ai dit que je vais attendre. J'ai fait rien là-bas. J'ai dit non, moi je ne peux pas rester comme ça. Si je reste comme ça, ça va être grave pour moi. J'ai dit j'ai envie d'aller à l'école pour étudier parce que je ne peux pas rester sans faire rien. Ils ont dit que non, je n'ai pas le droit d'aller à l'école d'abord. J'ai fait presque 2 mois, 3 mois sans téléphone. C'était compliqué. Le jour que j'ai gagné un téléphone, j'ai pris la photo là d'abord, première photo.
Ouais. T'as gagné un téléphone ou t'as
oui,
trouvé un téléphone?
Mais j'ai réussi. Quelqu'un qui m'a donné un téléphone, non. D'accord. C'était le téléphone, c'était ça.
C'est bien.
Presque, ça fait maintenant presque 2 ans. Je pense
c'est toujours celui-là.
Il est important ce téléphone.
Oui, ça c'est des vrais souvenirs. Mm-hmm. Souvent, je prends mon téléphone pour regarder le journal de sport. Après, pour regarder des choses importantes parce que c'était compliqué pour moi. Jusqu'à présent, c'est compliqué, mais je vais réussir.
Demain, tu vas parler comme un acteur. Tu vas parler fort. Tu vas raconter une petite soirée.
Ouais, je peux faire ça.
Comme tu as fait là, je t'ai présenté, puis tu as raconté ton truc, c'était top.
Pour ça aujourd'hui, pour me présenter, tu vois, parce que c'est la.
Je suis venu demander à un travailleur de Croix-Rouge. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai besoin de rasoir. Non, il m'a regardé, il m'a dit, non, on ne donne pas rasoir. C'est la raison de sécurité. J'ai dit, quelle sécurité? Non, peut-être vous pouvez vous faire du mal avec le rasoir. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, écoutez, la façon que vous risquez votre vie dans l'eau, ça ne va pas dans votre tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je soulève les yeux, je regarde ces messieurs. Je dis, se jeter dans l'eau est mieux que se jeter dans flamme. Vous ne savez pas ce qui se passe en Afrique. En Afrique, c'est parfois l'enfer. C'est pourquoi nous sommes obligés de courir, de venir ici. Ce n'est pas parce que nous sommes des touristes. Ce n'est pas parce que nous, on aime voyager. Ce n'est pas parce que c'est la beauté de l'Europe qui nous attire. C'est le danger qui se trouve dans notre pays qui fait que on ne peut pas rester. Et ensuite, j'ai ajouté à ces messieurs, j'ai dit, écoutez, messieurs, si vous voyez une tortue qui s'envole, rassurez-vous, celui qui l'a jetée n'est pas loin. Alors, c'est pourquoi, si vous voyez, nous, les immigrants, on débarque, on vient ici. Ce n'est pas parce que nous sommes fous. Ce n'est pas parce que nous aimons venir ici. C'est parce que ça ne va pas chez nous. Chacun de nous a des problèmes. Il suffit de lui poser des questions, il va vous répondre. Et les problèmes, que ce soit problème familial, que ce soit les problèmes politiques, c'est toujours pareil.
Alors qu'ils ont pu être bloqués dans un espace frontière méditerranéen qui n'a plus de délimitation claire, une fois arrivés en France, les personnes en demande d'asile doivent combler le temps de l'attente. Un temps qui s'étire alors que le champ des possibles se réduit. Elles attendent les décisions des juges, les courriers, les rendez-vous, les lentes avancées des procédures administratives et judiciaires pour avoir le droit d'initier un parcours, notamment professionnel. Elles n'ont pas de maîtrise sur le futur immédiat et plus ou moins lointain. Le futur est entouré d'incertitudes et le parcours migratoire peut sembler être sans fin.
Et aujourd'hui, je suis à Montpellier, 2022. Il y avait la Covid, c'était très compliqué avec le, comme tous les réfugiés de demande d'asile, et qui est pour voir un rendez-vous à la préfecture, etc., c'était trop difficile avec le Covid. Mais aujourd'hui, je suis un peu malheureuse parce que j'ai été refusé de demander asile deux fois et du coup je voulais partir en Italie pour voir la situation de demande d'asile. C'est très compliqué en France comme pour tous les réfugiés africains, des Afghans, il y a comme tous les étrangers.
Mais déjà je vais aller au milieu, ouais. Et après, on verra si un peu sympathique et simplement pour les demandes d'asile de réfugiés, je vais aller là-bas. C'est, ouais. Si la préfecture m'écoute et me voit.
Nous sommes sur la route de la paix. Tous ensemble sur la route de la paix. Nous sommes sur la route de la paix.
Merci à Fazel Tarakaï, Mukhtar Ba, Camara Mohamed Kerfis, Abou Traoré et Kalou Kondé pour avoir partagé leurs histoires et avoir témoigné à visage découvert en leur nom propre. Leurs propos ont été recueillis lors d'un atelier en mai 2022. Nous avons travaillé sur la base de photographies du parcours migratoire et durant la pandémie de la Covid-19. Afin d'ouvrir le dialogue et de recueillir leurs témoignages dans un cadre collectif. Cet atelier a été réalisé dans le cadre du projet de recherche INCOV. Dans une logique participative entre tous les acteurs impliqués et de co-construction des données, ce projet mobilise des outils plastiques et audiovisuels et travaille à valoriser les résultats de la recherche sous différents formats. Ce film audio a reçu le soutien de la Maison des sciences de l'Homme Sud, de NARO, et de l'unité de recherche Ardev à Montpellier. Il a été conçu et réalisé par Ethan Lacrame-Camus, Anaïs Troussel, Geneviève Cortès, Cécile Joanneau, Jean-Baptiste Sauré et Pierre-Olivier Gomin.